Chers frères et sœurs et chers amis, pour commencer, nous allons essayer de comprendre ensemble l'amour de Dieu pour l'humanité. Ensuite, nous avons le thème suivant, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un sauveur. Et le troisième thème, sur ce même message, sur ce même CD, sera la conversion. Je répète le tout. Donc, pour commencer, premièrement, l'amour de Dieu pour l'humanité. Deuxièmement, nous avons besoin d'un sauveur. Et troisièmement, la conversion. Oui, l'amour de Dieu pour l'humanité, ça c'est quelque chose de merveilleux. La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père Céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Contemplez les merveilles de la nature et constatez leur parfaite adaptation aux besoins et aux bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de toutes les créatures vivantes. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre, les montagnes, les mers, les plaines, tout nous parle de l'amour du Créateur. Oui, c'est Dieu qui subvient aux besoins de toutes les créatures. Ces belles paroles du psalmiste rendent hommage à sa touchante sollicitude. Il est dit dans le psaume 145, versets 15 et 16, « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. » Oui, Dieu créa l'homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C'est la transgression de la loi de Dieu, loi d'amour, qui a été la cause de la mort et de tous nos maux. Néanmoins, l'amour de Dieu se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de l'homme, le sol a été maudit. Mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui font de notre pèlerinage terrestre un long calvaire nous ont été départis pour notre bien. Ils entrent dans le plan d'éducation que Dieu destine à nous relever de l'état de dégradation et de la ruine dans laquelle le péché nous a plongés. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance dans ce monde. Heureusement, la nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et même des roses éclore dans les épines. Car Dieu est amour. Et cette parole se lit sur chaque bouton de fleurs et sur chaque brin d'herbe. Les charmants oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres gigantesques et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. La parole de Dieu révèle son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini. Quand Moïse lui adressa cette requête, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et passant devant, Moïse s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et même le péché. Il est lent à la colère et riche en bonté, car il prend plaisir à la miséricorde, c'est là sa merveilleuse gloire. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, il s'est efforcé de se révéler à nous. Mais tout cela encore n'est qu'un reflet bien pâle de son merveilleux caractère. Et l'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'il s'approche de Dieu avec crainte et le considère comme un être très sévère et implacable. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, pour un juge sévère, pour un créancier dur et inexorable. Il peint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes et afin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini du Créateur que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Oui, chers amis, des milliers de personnes essayent de me faire comprendre et, en me prenant pour un ermite vivant au Saint-Bernard avec ses très imposants chiens que personne n'a jamais vus, soi-disant, oui, ils disent que personne n'a jamais vu ni Dieu ni Satan. Eh bien, chers amis, le jour où vous écouterez soit l'importante série de CD sur le ministère des anges, ou la très importante série sur Satan et la démonologie que vous pouvez obtenir à la même adresse, vous changerez totalement d'idée. En attendant, notez simplement les 2 ou 3 versets suivants. Saint Jean, chapitre 1, verset 18, Matthieu, chapitre 11, verset 27, Et Luc, chapitre 4, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Un de ses disciples lui ayant dit « Montre-nous le Père ». Jésus-Christ lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Vois-tu celui qui m'a vu, a vu le Père ? Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Voici en quels termes le Seigneur Jésus-Christ décrit sa mission terrestre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Telle était son œuvre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire, et on peut aussi dire sous l'emprise du diable. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie, car il avait passé par là et avait guéri tous les malades. Oui, son œuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la compassion se révélaient dans chacun des actes de sa vie. Son cœur était rempli de tendre sympathie pour les enfants des hommes. Il avait revêtu la nature humaine afin de subvenir à leurs besoins. Les plus pauvres et les plus humbles ne craignaient pas de l'approcher. Jésus-Christ ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Oui, il a pleuré sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité, et la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié, sa compassion. Sa vie était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un saint respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus-Christ révélé par sa vie. Et tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestés en Jésus-Christ découlent sur les enfants des hommes. Oui, Jésus-Christ, sauveur tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair. C'est pour nous racheter que Jésus-Christ a vécu, a souffert et qu'il est mort. Il est devenu homme de douleur afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et la mort. Dieu, le Père, a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et même la mort. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Contemplez-le au désert, en Gethsémané, sur la croix, le Fils immaculé de Dieu, chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu. Séparation qui lui arracha ce cri d'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le fardeau du péché et le sentiment de son énormité qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Mais ce sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue, afin de le disposer à le sauver, à sauver l'humanité. Non, 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 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime, mais c'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation, à ce grand sacrifice. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répondre, ou plutôt répandre, tout son amour infini sur un monde déchu. Oui, Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. Dieu a souffert avec son Fils dans les détresses de Gethsémané, comme dans la mort du calvaire. C'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. Jésus-Christ dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » En d'autres termes, l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. je lui suis devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant en déposant ma vie et en prenant sur moi vos dangers et vos transgressions. Car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en Jésus-Christ. Chers amis, dans notre deuxième partie, nous allons voir qu'il nous faut vraiment un sauveur. L'homme a été doué à l'origine de facultés nobles et d'un esprit bien équilibré. Il était physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pures, ses aspirations saintes. Mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. Sa nature morale a été tellement altérée par la transgression qu'il lui est devenu impossible par sa propre force de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan et serait à jamais resté en son pouvoir si le Seigneur ne s'était pas interposé d'une manière spéciale. Le but du tentateur était de frustrer le dessein de Dieu et de couvrir la terre de ruines et de désolations. Cela fait, il se proposait de citer ces ruines comme la conséquence de la création de l'homme. Il est malin, l'ennemi, et dans son état d'innocence, eh bien l'homme vivait dans une heureuse communion avec celui dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais après son péché, ne trouvant plus son plaisir dans la sainteté, il a voulu se cacher loin de la présence de Dieu. Telle est encore la condition du cœur irrégénéré. Il ne bat pas à l'unisson avec le cœur de Dieu et il ne trouve pas par conséquent aucune jouissance dans sa communion. Le pécheur ne serait pas heureux en la présence de Dieu, pas du tout. La société des êtres saints lui serait au contraire intolérable. S'il lui était permis de franchir le seuil du ciel, il se sentirait carrément malheureux. Chers amis, pour amener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Et cette puissance, c'est évidemment Jésus-Christ. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et vers la sainteté. Le Sauveur Jésus-Christ dit « À moins qu'un homme ne soit engendré d'en haut, à moins qu'il ne reçoive un cœur nouveau et des aspirations nouvelles, ça c'est important, n'est-ce pas? Eh bien, l'homme aurait aucune chance. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il est écrit, touchant Jésus-Christ, la parole incarnée, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ est le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je répète, Jésus-Christ est nul autre et le seul nom qui ait été donné parmi tous les humains, par lequel nous devions être sauvés. Essayons de bien comprendre qu'il ne suffit pas d'entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu'elle est fondée sur le principe éternel de l'amour. L'apôtre Paul avait connaissance de tout cela quand il disait « Je reconnais que la loi est bonne, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Mais il ajoutait dans l'amertume de son désespoir « Je suis charnel, donc je suis vendu au péché. » Il soupirait après une sainteté et une justice qu'il se sentait incapable de réaliser. Et il s'écriait « Misérable que je suis !» Qui me délivrera du corps de cette mort? Tel est le cri qu'ont poussé en tout temps et en tout pays les âmes écrasées par le sentiment du péché. Pour tous, il n'y a qu'une seule réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Contemplez-le. Oui, nombreuses sont les images par lesquelles l'Esprit de Dieu s'est efforcé d'illustrer cette vérité afin de la rendre claire aux âmes qui désirent être soulagées du fardeau de la culpabilité. N'oublions jamais que toute grâce excellente et tout don parfait procèdent de Dieu. Il n'y a pas hors de lui de véritables excellences de caractère. Et le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Car la Bible dit, dans le Saint-Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je répète, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est personne d'autre. Car il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chers amis, le cœur de Dieu déborde pour ses enfants terrestres d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils bien-aimé, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la méditation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit-Saint, le Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes, tout est mis à réquisition en vue de la rédemption de l'homme. Je répète, le cœur de Dieu déborde pour ses enfants terrestres d'un amour bien plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. Oui, la vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit-Saint, le Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes, tout est mis à réquisition en vue de la rédemption de l'homme. Oh, arrêtons nos regards sur le prodigieux sacrifice consommé pour nous. Essayons de nous rendre compte de la somme d'énergie et de labeur que dépense le ciel en vue de ramener les égarés à la maison du Père. Des mobiles plus forts et des agents plus puissants n'auraient jamais pu être mis en activité. La récompense inouïe réservée à ceux qui font le bien, les jouissances du ciel, la compagnie des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le perfectionnement et le développement de toutes nos facultés à travers les siècles éternels, ne sont-ce pas là des encouragements suffisants pour rendre à notre Créateur et Rédempteur le service affectueux de nos cœurs? D'un autre côté, pour nous mettre en garde contre le service de Satan, la parole de Dieu nous présente les jugements de Dieu dénoncés contre le péché et leur rétribution inévitable, la dégradation du caractère et la destruction finale. Chers amis, notre troisième thème concerne la conversion. Oui, comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? Comment un pécheur sera-t-il pur? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu et de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus-Christ? Ils sont nombreux, ceux qui, avec la multitude convaincue de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient « Que ferons-nous ?» Les premiers mots de l'apôtre Pierre en réponse à cette question furent convertissez-vous. Un peu plus tard, il leur disait ceci, convertissez-vous donc et retournez à Dieu, et ceci pour que vos péchés soient effacés. Voyez-vous, la conversion comprend la douleur d'avoir commis le péché et d'abandonner celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la culpabilité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ça, c'est important. Ils sont très nombreux, ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la conversion. Nombre de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce que elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la conversion dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Et telle a été la douleur d'Ésaü quand il a vu qu'il avait perdu son droit d'aînesse à tout jamais. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas chez lui un regret véritable de ses péchés. Il n'y avait pas de changement, de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'est écrié « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Cette confession était arrachée à une âme coupable par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur, mais il n'y avait chez lui aucun remords déchirant et sincère d'avoir trahi carrément l'innocent Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s'appesantissaient sur lui, reconnaissait son péché. Mais ce n'était que pour échapper au châtiment. Car dès que les plaies s'éloignaient, il recommençait à braver le ciel. Tous ceux-là déploraient les conséquences de leur péché, mais ils ne s'attristaient pas sur ces péchés eux-mêmes. Par contre, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La prière de David, après sa chute, son péché, peut servir à illustrer le véritable repentir. Son chagrin fut totalement sincère et profond. Il ne chercha nullement à cacher sa culpabilité. Sa prière n'était nullement dictée par le désir d'échapper tout simplement au jugement qui allait le frapper. David voyait l'énormité de sa transgression. Il voyait la souillure de son âme. Il abhorrait son péché. Ce n'est pas le pardon seulement qu'il demandait, mais la pureté du cœur. Ça change tout. Il soupirait après la joie de la sainteté et après la communion avec Dieu. Voici le langage de son âme, et ceci selon le psaume chapitre 32 et 51. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Chers amis, une telle conversion, croyez-moi, n'est pas au pouvoir de l'homme de la réaliser. On ne la reçoit que de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Oui, Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de l'opération du Saint-Esprit sur notre cœur. Jésus-Christ a dit: quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce qui veut dire tous les hommes et les femmes. Il les attirera à lui. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde, car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui éclate nous amène à la conversion. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. Le pécheur peut résister à l'amour de Dieu. Il peut refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré. La connaissance du plan du salut l'amènera au pied de la croix, regrettant les péchés qui ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, qui agit dans la nature, est aussi celui qui parle au cœur de l'homme et y fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu'il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent le satisfaire. L'Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos. C'est la grâce de Jésus-Christ, c'est la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles humains et invisibles les anges, notre Sauveur s'efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du péché pour les attirer sur les grâces infinies que nous pouvons obtenir en lui. C'est à toutes les âmes qui ont cherché en vain à se désaltérer aux citernes crevassées du monde que ce message divin est adressé. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous devons également laisser agir l'Esprit Saint. Vous qui soupirez en votre cœur après quelque chose de meilleur que ce que le monde peut vous offrir, reconnaissez dans ce désir la voix de Dieu parlant à votre âme. Demandez-lui de vous donner la conversion, de vous révéler Jésus-Christ dans son amour infini, dans sa pureté parfaite. Les principes de la loi de Dieu, amour de Dieu et amour du prochain, sont parfaitement illustrés par la vie du Sauveur. Oui, un amour et un désintéressement parfait, c'était là sa vie. Et c'est quand on contemple Jésus-Christ, c'est quand les rayons de lumière émanent de lui et descendent sur nous, que nous nous rendons compte de la noirceur de notre cœur. Nous pouvons, de même que Nicodème, nous être bercés de l'illusion que notre vie a été régulière, que notre moralité n'a rien laissé à désirer, et en avoir conclu que nous n'avons pas lieu de nous humilier devant Dieu comme de vulgaires pécheurs. Mais quand la lumière de Jésus-Christ brillera dans notre âme, nous verrons combien nous sommes impurs. Nous discernerons l'égoïsme de nos mobiles et l'inimitié contre Dieu. Oui, vraiment, qui a souillé, nous avons souillé tous les actes de notre vie. Et nous verrons, chers amis, que notre justice est véritablement comme le linge le plus souillé. Et que le sang de Jésus-Christ seul peut nous purifier de la souillure du péché et transformer nos cœurs à sa ressemblance. L'Esprit Saint met à nu la difformité et les défauts du caractère humain. Il met en évidence les désirs non sanctifiés, tels que l'incrédulité du cœur, et l'impureté des lèvres, les actions déloyales du pécheur, actions qui outragent la loi de Dieu. Oui, l'apôtre Paul, parlant de sa conduite extérieure, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il s'est vu pécheur à se juger par la lettre de la loi en l'appliquant seulement aux actes extérieurs, comme peuvent le faire les hommes. Il se trouvait sans péché. Mais voyez-vous, quand il plongea ses regards dans les profondeurs des saints préceptes et qu'il s'est vu tel que Dieu le voyait, il a dû baisser la tête et s'humilier et confesser sa culpabilité. Quand il a compris la spiritualité de la loi, le péché lui apparut dans toute son horreur et s'en fut fait de la très bonne opinion qu'il avait de lui-même. Tous les péchés ne sont pas également odieux devant Dieu. Il y a pour lui, tout comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant que puisse paraître tel ou tel péché aux yeux de l'homme, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que Dieu estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare même que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais, curieusement, on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et le comboiteur. Et pourtant, ce sont là des péchés qui sont particulièrement odieux au Seigneur. Qui ne se souvient pas du pauvre péager qui faisait cette prière? Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Se considérait vraiment comme très mauvais, mais il avait le sentiment de sa misère et sous le poids du fardeau de sa culpabilité et de son opprobre, il vint devant Dieu pour lui demander miséricorde. Oh oui, son cœur était ouvert à l'action de l'Esprit de Dieu qui pouvait l'affranchir du péché. Par contre, la prière orgueilleuse du pharisien satisfait montre que son cœur était inaccessible à l'influence du Saint-Esprit. Vivant loin de Dieu, il n'avait pas le sentiment de sa propre souillure, ni de la perfection de la sainteté divine. Ne désirant rien, il ne reçut rien, absolument rien. Chers amis, si vous voyez votre état de péché, n'attendez pas de vous être rendu meilleur. Oui, ils sont nombreux, ceux qui pensent n'être pas assez bons pour aller à Jésus-Christ. Vous imaginez-vous peut-être devenir meilleur par vos propres efforts? Pas du tout. Vous pouvez essayer, vous verrez. Les impénitents s'excuse parfois en disant des chrétiens, oh, moi je suis aussi bon qu'eux. Ils ne sont pas plus désintéressés, ces chrétiens, ils ne sont pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils aiment les plaisirs et les jouissances autant que moi. Chers amis, c'est là, se retrancher derrière les fautes d'autrui. Ah, mais les défauts et les péchés d'autrui ne justifient personne, car le Seigneur ne nous a pas donné un modèle humain et imparfait. L'Immaculé Fils de Dieu nous a été donné pour nous servir d'exemple, et ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des chrétiens sont précisément ceux qui devraient, par une vie plus noble, donner un meilleur exemple. Si leur conception d'un chrétien est tellement élevée, leur péché n'est-il pas d'autant plus grand? Ils connaissent le bien, mais ils refusent de le faire. Ça, c'est dangereux. Prenez garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés et de rechercher en Jésus-Christ la pureté du cœur. C'est précisément ici que des milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas sur la brièveté et l'incertitude de la vie, mais il y a un terrible danger, danger trop peu compris, à toujours renvoyer et de ne pas répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre tout simplement dans le péché. Ce n'est qu'au péril de son âme qu'on peut tolérer un péché, quelque petit qu'il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas, croyez-moi, va nous vaincre tôt ou tard et deviendra l'artisan de notre ruine. Voyez-vous, le ciel a ressenti les effets de cette rébellion contre Dieu. Le calvaire est un monument du sacrifice inouï exigé pour expier la transgression de la loi divine. Donc, ne considérons pas le péché à la légère. Chaque manquement, chaque négligence, chaque réjection de la grâce de Jésus-Christ a un effet réflexe sur vous-même, car le cœur s'endurcit, attention, et la volonté se pervertit. Ensuite, l'intelligence s'émousse, vous devenez non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit. Plusieurs font taire carrément la voix de leur conscience alarmée en se persuadant que quand ils le voudront un jour, ils pourront délaisser le mal. Ils s'imaginent qu'ils peuvent se jouer des appels de la miséricorde divine. Mais cela ne se fait pas aussi facilement. L'expérience, l'éducation d'une vie entière ont tellement pétri le caractère qu'ils sont peu nombreux, croyez-moi, ceux qui, à l'article de la mort, désirent recevoir l'empreinte de Jésus-Christ. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet, mes chers amis. Chaque jouissance coupable fortifie l'aversion de l'âme pour Dieu. Celui qui témoigne pour la vérité divine une incrédulité tenace ou une stupide indifférence ne fait que récolter la moisson de ce qu'il a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus, disons, carrément plus effrayant, ah oui, contre le danger de jouer avec tout cela, avec le mal, et que celui contenu dans ces paroles du sage, écoutez bien, où il est dit que le méchant est saisi par les liens de son péché. Je répète, le méchant est saisi par les liens de son péché. Or, Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Nous avons le libre choix. Si en persistant dans la transgression, notre volonté se courbe complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire de plus? Nous nous sommes condamnés, en effet, nous-mêmes, par notre réjection obstinée de son amour. La Bible dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Je répète, la Bible nous dit voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur, à ce cœur humain, avec ses émotions contradictoires de joie et de tristesse, à ce cœur inconstant et vacillant qui recèle tant d'impureté et de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles. Allez à lui tel quel. L'âme toute maculé avec le psalmiste, ouvrez en toute grande les avenues à l'œil auquel rien, oui, à l'œil de la divinité auquel rien n'échappe, en vous écriant sonde-moi, ô Dieu, oui, sonde-moi, mon Dieu. Connais mon cœur. Oh, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chers amis, la plupart des personnes préfèrent d'accepter une religion intellectuelle, une forme de piété, alors que le cœur n'est pas purifié. Que votre prière constante soit « Créez en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Chers amis, une espérance basée uniquement sur des suppositions d'évolution ou d'autres théories uniquement scientifiques, eh bien, risque de vous être fatale. Étudiez la parole de Dieu avec prière. Cette parole vous présente dans la loi de Dieu et dans la vie de Jésus-Christ les grands principes de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Elle convainc de péché et elle révèle clairement le chemin du salut. Prenez-y garde comme à la voix de Dieu parlant carrément maintenant à votre âme. Quand vous verrez l'énormité du péché, quand vous vous verrez tel que vous êtes, ne vous laissez pas aller au désespoir. C'est pour sauver des pécheurs que Jésus-Christ est venu. Oui, pour sauver des pécheurs. Croyez-moi que Jésus est venu, non pas pour ceux qui se croient parfaits et justes. Nous n'avons pas à apaiser Dieu envers nous, puisque, ô amour insondable, c'est Dieu qui réconcilie en Jésus-Christ le monde avec lui-même. Il attire par son tendre amour les cœurs de ses enfants égarés. Il n'est pas de parents terrestres qui sachent manifester envers leurs enfants la patience que Dieu exerce envers ceux au salut desquels il travaille maintenant. Quand nous comprendrons quelque chose du sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur va se fondre de tendresse et de douleur. Chers amis, j'aimerais que nous puissions terminer par une prière un peu spéciale. Oui, chers amis, vous venez d'entendre la parole de Dieu que vous pouvez vérifier dans l'évangile de Saint Jean. Vous pouvez, sans être dérangé, là, chez vous, prendre une décision si ce n'est pas déjà fait. Chers amis, si vous êtes convaincus et d'accord, vous pouvez répéter la prière que je vais faire pour vous maintenant. Prions donc ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi pour recevoir le don de Dieu qui est la vie éternelle. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te confesse tous mes péchés en cet instant même. Je regrette mes péchés, car ils m'ont séparé de ta bénédiction, et je m'en repens sincèrement, et je t'en demande pardon. Je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois que dans ton grand amour et ta grande miséricorde, tu l'as envoyé mourir pour moi à ma place. Je crois qu'il est ressuscité des morts pour vivre éternellement. Il est maintenant mon sauveur. J'accueille désormais Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur qui me sauve du péché, de l'enfer et de toute la puissance du diable. J'accepte Christ comme Seigneur de ma vie et désormais, je consacre ma vie à te plaire. Jésus-Christ, tu as dit que si je venais à toi, tu me rejetterais pas. Je suis venu à toi de tout cœur, pauvre pécheur, faible et coupable, cherchant le salut et ne me confiant qu'en ton sang précieux que tu as versé pour moi à la croix. Je suis sûr que tu me rejetteras pas. Tu as dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois de tout mon cœur que tu es mon Seigneur ressuscité des morts. Aussi, ici et maintenant, je confesse que tu es mon maître, mon sauveur, mon Seigneur, et je te reçois maintenant dans mon cœur par la foi. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et comment. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et bientôt, à nouveau, je l'espère bien. Au revoir, mes très chers amis.